En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La grippe espagnole tua plus de 400 000 personnes en France, 30 millions en Europe, entre 1918 et 1919, pendant la Grande Guerre. Lors de la journée du livre à l'Académie nationale de médecine, qui s'est déroulée en septembre 2008, Paul Léofonte, membre correspondant de cette académie, a fait le point sur cette tragédie de l'histoire. Charles Pillet, vétérinaire, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, a poursuivi sur ce thème en revenant sur la grippe aviaire, ou H5N1, dont les origines proviennent de la grippe espagnole. Écoutons dans l'ordre Paul Léofonte, puis Charles Pillet.
Si vous faisiez une enquête dans votre entourage, un sondage, pour savoir quelles sont les grandes tragédies du XXe siècle, on vous répondrait certainement la guerre de 14, le nazisme et les camps, le stalinisme et les goulags, le bombardement d'Hiroshima et Nagasaki, l'épidémie de sida, mais très probablement, on ne vous parlerait pas de la grippe espagnole, qui est pourtant l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire avec la peste du XIVe siècle. On a pu parler d'Holocauste, du plus grand holocauste médical. La grippe espagnole a fait dans les estimations les plus basses environ 30 millions de morts, alors que la guerre de 14 a fait un peu plus de 8 millions de morts, pas 9 millions de morts. Et d'autre part, des estimations qui ont pris en compte l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, pensent qu'il y eut plus de 50 millions de morts. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il qu'une maladie qui a frappé les populations de la sorte soit un peu occultée ? Et il y a deux raisons. La première, c'est que cette maladie est arrivée pendant la guerre. Vers le mois de mars-avril 1918, et il y avait la censure qui sévissait. Il est évident qu'il ne fallait pas que l'adversaire sache que les troupes en face étaient fragilisées par la grippe. Il y avait donc une censure très forte qui sévissait, sauf dans un pays qui n'était pas engagé dans le conflit mondial, qui était l'Espagne. Et il s'est trouvé que la grippe a diffusé en Espagne et que le roi et sa cour ont été victimes. Et c'est la raison pour laquelle on l'a appelée la grippe espagnole, qui n'avait absolument rien d'espagnol. Elle avait été amenée en Europe par les troupes américaines qui avaient débarqué à Bordeaux, et elle s'était répandue en Europe. Alors il est probable qu'elle était arrivée aux États-Unis à partir de la Chine. Cette maladie a évolué par vagues. Il y a eu trois vagues successives, dont la seconde, vous voyez, qui se situe entre le mois d'août et le mois de janvier 1919. Et fait remarquable, on voit que la mortalité de cette grippe a affecté des populations d'âge moyen, ce qui n'est pas le cas habituellement des grippes épidémiques que nous connaissons. Ce sont surtout les personnes les plus âgées qui sont victimes. Et également les enfants en très bas âge. La première raison, c'est la censure. La deuxième raison, c'est la joie absolument délirante qui s'est emparée des populations lorsque l'armistice a été déclaré le 11 novembre. Et alors, si vous le voulez bien, on va s'arrêter à cette date du 11 novembre. Eh bien, alors que les cloches carillonnent pour la victoire, on enterre l'un des plus grands poètes français qui est Apollinaire. Apollinaire est mort en quelques jours, il est enterré le 11 novembre. Je vous ai mis ici le tableau de Quiricot qui est intéressant parce que on voit que Apollinaire est représenté avec des lunettes noires, la cécité étant l'image de la sagesse chez les Grecs. Il y a également les symboles d'Orphée. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une silhouette d'Apollinaire ici avec une cible. Ce tableau de De Quirico a été fait avant que Apollinaire ne soit victime pendant la guerre d'un éclat d'obus au niveau de la tempe. Et Apollinaire sera trépané. Et puis, secondairement, il fera une pneumonie. Et puis, fragilisé par cette pneumonie, il va mourir de la grippe. Alors je passe parce que j'avais des choses très intéressantes à vous dire sur Apollinaire, mais je vais aller un peu vite pour vous montrer l'image suivante, qui est un tableau d'Egon Schiele. Egon Schiele, vous le savez, est un des peintres de la sécession avec Klimt, très expressionniste, et ce tableau est très émouvant parce que Klimt l'a peint quelques semaines avant sa mort. Sa femme était enceinte. Et sa femme l'a précédée dans la mort. Elle était enceinte de 6 mois. Elle l'a précédée de quelques jours dans la mort. Et Klimt est mort en 3 ou 4 jours. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il a peint dans ce tableau l'enfant qu'il a fantasmé, qui n'est jamais venu au monde. Il a peint sa femme et cet enfant. Et puis, dernière image pour caractériser l'une des personnalités qui est morte, c'est Edmond Rostand, qui a fêté la victoire, et on avait décidé de rejouer l'aiglon. Et en sortant des répétitions de l'aiglon, il prend froid et il va mourir lui aussi de la grippe espagnole. Alors, je me suis arrêté à ces cas anecdotiques, mais c'était entre 300 et 1000 morts par jour qu'il y avait à ce moment-là, dans le pays, avec des conditions extrêmement difficiles pour prendre en charge les malades. On n'avait plus assez de cercueils, on n'avait plus assez de corbillards, et on traitait les patients avec des médicaments de fortune. Alors, il faut dire que cette grippe ne ressemblait pas beaucoup à la grippe épidémique que nous voyons habituellement. Elle avait un caractère souvent fulminant. Oui, cette courbe vous montre la mortalité plutôt dans les tranches d'âge jeunes, alors que la mortalité par grippe est de 0,1%, elle était de 2,5%, c'est-à-dire 25 fois plus que la mortalité habituelle des épidémies. Alors de quoi mourait-on ? On mourait de pneumonie, d'une pneumonie fulminante, quelquefois à l'occasion d'une surinfection. Et on va trouver dans les poumons de ces malades qui sont morts de grippe une bactérie qui a besoin pour croître de composants, de facteurs de croissance qui sont dans le sang. C'est pourquoi on va l'appeler Haemophilus. C'était le bacille de Pfeiffer qui avait été découvert à la fin du 19e siècle. En fait, on ne savait pas isoler les virus à ce moment-là. On pense que la maladie est due à Haemophilus. Et on va la baptiser Haemophilus influenzae. Et là, j'ouvre une parenthèse, parce qu'il y a un paradoxe, c'est que la grippe dans les pays anglo-saxons est appelée l'influenza, alors que dans les pays latins, elle est appelée avec un mot gothique, qui est la grippe, qui veut dire saisir brusquement. D'où le nom d'Haemophilus influenzae. Alors, pourquoi l'influenza ? C'est parce que dans les chroniques du Moyen-Âge, où il y avait des épidémies évoquant la grippe, on disait « influenza di freddo », l'influence du froid. Et puis, comme on pensait que les astres étaient responsables des épidémies, on disait « influenza di stelle », influence des étoiles. Et c'est comme ça que le mot d'influenza est resté. Alors, la nature virale de la maladie a été démontrée par un monsieur qui s'appelle Dujarric de la Rivière, qui travaillait à l'Institut Pasteur, qui était sous les drapeaux. Et là, je pense que les cliniciens qui font des recherches sur des cohortes en double aveugle contre placebo vont être intéressés par la façon dont Dujarric de la Rivière a procédé, en s'inspirant de ce que disait Alfred Fournier, qui était le grand spécialiste de la syphilis, et je vous lis ce que disait Alfred Fournier. « Si le médecin est désireux d'étudier, de contrôler un fait de science, c'est lui seul qu'il doit choisir comme sujet d'expérimentation, et non le malade qui se confie à ses soins. » Et par conséquent, Dujarric de la Rivière, eh bien, il s'est injecté des sécrétions de grippe, et il sait qu'il avait été ultra-filtré, puisqu'on avait connaissance des virus ultra-filtrants, et il s'est inoculé la grippe dont, fort heureusement, il a guéri. Alors, le virus de la grippe a été découvert en 1931 chez le porc, et chez l'homme en 1933. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que jusqu'à présent, on ne savait pas quel était l'agent réellement de la grippe espagnole. On a pu, sur des fragments de tissu conservés dans du formol et à partir de cadavres qui étaient dans le permafrost, dans les régions arctiques glacées, on a pu retrouver le virus. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, grâce à des techniques de génétique, on a réactivé le virus de la grippe espagnole et en l'injectant à la souris, on a démontré qu'il était 100 fois plus mortel que les virus épidémiques traditionnels. Donc, pour vous dire que la grippe, bien entendu, était présente avant la grippe espagnole, mais on l'évoque par le caractère épidémique, par vagues successives, et elle a eu des noms multiples. Alors je passe sur toutes les anecdotes que je vous avais réservées. Elle s'est appelée Tac, elle s'est appelée Orion, elle s'est appelée Dando. Et Louis XV l'avait baptisée Follette parce qu'elle allait très vite de l'un à l'autre. Et bref, elle a eu des dénominations extrêmement nombreuses. Alors, il y a un après la grippe espagnole, il y a eu deux grandes pandémies que certains d'entre nous dans cette salle ont pu vivre. Il y a eu la grippe asiatique en 57-58 et en 68-69 la grippe de Hong Kong, mais ces pandémies n'ont pas eu la gravité de la grippe espagnole. Alors, la question qui se pose actuellement, c'est de savoir si nous allons avoir dans les prochaines années une pandémie de grippe. Les virologues sont quasi certains qu'il y aura une pandémie de grippe. Il y a en général deux ou trois pandémies par siècle. Et donc, il est vraisemblable qu'elle surviendra, mais on ne sait pas quand. Est-ce qu'elle sera liée au virus H5N1 qui est actuellement dans le sud-est asiatique et qui est surtout responsable d'une épizootie aussi, on ne le sait pas. Alors, vis-à-vis de cette pandémie, il est clair que nous avons des moyens que l'on n'avait pas au moment de la grippe espagnole. Il y a des réseaux, il y a des moyens thérapeutiques symptomatiques, il y a des moyens spécifiques. Vous avez tous entendu parler du Tamiflu. Il y a la vaccination que l'on peut préparer, mais qui va demander du temps. Et il y a un plan pandémique dans les détails duquel je ne vais pas rentrer. Simplement, et je le réserve pour une discussion éventuelle, il y a un point sur lequel on ne sait peut-être pas suffisamment préoccupé. Lorsque on regarde qu'est-ce qui se passe dans les populations lorsqu'il y a un fléau infectieux, quel qu'il soit, le choléra dont on a parlé tout à l'heure, la peste, toute autre maladie infectieuse épidémique, eh bien les comportements des populations sont stéréotypés. Et l'on retrouve d'abord la rumeur, qui est une épidémie dans l'épidémie, on retrouve le déni, on retrouve la peur, la fuite, les suicides, les boucs émissaires, on retrouve les héros et puis ceux qui ne le sont pas, j'allais dire les salopards, mais c'est dans les épidémies, c'est ce qu'on voit, et on voit ce schéma qui se déroule. Et on peut se poser la question de savoir, j'en termine, si on ne sera pas confronté à ce genre de problème. Et effectivement, je terminerai sur une anecdote. J'ai un de mes amis pharmaciens, au moment où les médias parlaient de la pandémie, qui a un client qui s'est présenté à lui et qui lui a demandé du Tamiflu. Or, le Tamiflu, on ne pouvait pas s'en procurer dans les pharmacies, les stocks sont en réservé. Alors, il a d'abord proposé le double du prix éventuel, puis le triple, puis le quadruple, et à la fin, il est devenu menaçant. Et je crois que ça, c'est tout à fait symptomatique. Il faudra que les pharmacies soient gardées par l'armée, etc. Et on peut imaginer ce qui se passe. Alors, la dernière image que je vous avais laissée, c'était les fléaux de l'apocalypse de Dürer, parce qu'il faut espérer que dans la jarre de Pandore, vous savez que dans la jarre de Pandore, il est resté l'espérance, ben, il faut espérer que tout ça ne nous arrivera pas.
Alors maintenant, Charles Pilet, que vous connaissez, qui a été président de l'Académie et qui a dirigé l'école de Maisons-Alfort, et il attaque non pas la grippe médecin, enfin le malade médecin, mais l'animal médecin.
Merci. Trois observations, compte tenu du temps, très brèves, si vous le voulez bien. La première concerne le rôle de la communication dans la crise de la grippe et peut-être aussi dans les autres crises sanitaires que la France vient de connaître. La deuxième, c'est un rappel de l'origine animale de toutes ces crises. Et la troisième concerne les conséquences que l'on serait en droit de tirer de cette observation. Paul Léofond vient de rappeler il y a un instant la peur, la psychose qu'a suscité l'apparition de la grippe en France. Et notamment, tout est parti, je crois, de la communication d'un haut directeur de l'Organisation mondiale de la santé qui, le 24 janvier 2004, annonce qu'une pandémie de grippe est presque obligatoire. La seule incertitude tenait à la date de l'apparition de cette pandémie. Message relayé d'une manière massive par tous les médias du monde, l'inquiétude monte, les médias s'en donnent à cœur joie, il y a même certains livres qui publient une prévision de 500 000 morts en France dans le futur, et les ministres, bien sûr, prennent leurs précautions, instruits par l'affaire du sang contaminé antérieur. Le ministre de la Santé apparaît souvent à la télévision, commentant les commandes de Tamiflu, commandant les commandes de masques, et à chacune de ces apparitions, plutôt que de calmer le public, l'inquiétude monte, et l'on sent qu'une pandémie est sur le point de survenir. En fait, précisément, quels sont les faits ? Le fameux virus H5N1 que vient d'évoquer Paul Léopold, qui est considéré par les médias comme un virus nouveau. C'est le virus qui est confondu avec le virus des oiseaux, le virus aviaire, et le virus de la pandémie future. Et l'on confond le tout. Les faits sont différents. Le H5N1 est un virus qui atteint les volailles. C'est un virus qui atteint les animaux, qui n'est pas un virus nouveau. C'est un virus que nous connaissons depuis 1959, 49 ans. Première encyclopédie de grippe aviaire, qu'on appelait autrefois la peste aviaire, en Écosse. Deuxième apparition en Angleterre en 91, ou plutôt en Pennsylvanie, pardonnez-moi, non, en 91, l'Angleterre. Ensuite, c'est une épidémie sévère, une encyclopédie sévère. Ensuite, Hong Kong, 97, éradication de plusieurs millions de volailles, on circonscrit le phénomène. Et puis, 2003, apparition du virus dans différents pays asiatiques. C'est donc pas un virus nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ce virus n'a pas été éliminé d'emblée comme dans les encyclopédies précédentes. On l'a laissé se développer, soit par des raisons commerciales, parce que certains pays n'avaient pas intérêt à déclarer cette maladie aux instances internationales, soit par insuffisance des services vétérinaires de ces pays. Et voilà le fait nouveau. Et depuis, en effet, ce virus existe dans plusieurs pays du monde et constitue une menace, non pas en tant que tel, mais parce qu'il peut muter directement, bien sûr, ou parce qu'il peut se recombiner à un virus humain chez un animal qui est peut-être le porc, puisque le porc a l'avantage ou l'inconvénient de présenter les deux récepteurs, le récepteur au virus aviaire et le récepteur au virus humain. Donc le risque existe, mais je noterai avec vous, il y a plus de quatre ans et demi, que l'annonce nous a été faite d'une pandémie. En fait, ça rappelle les alertes et les crises qui ont survécu en France en ces dernières années. En 99, cher ami, j'occupais ton siège et nous avons été l'objet d'une crise de psychose extraordinaire avec l'affaire des poulets belges à la dioxine. Là aussi, déchaînement médiatique. Et pendant une semaine, tous les quotidiens, chaque fois, à chaque jour, ont publié des articles particulièrement alarmistes. Guy Hourisson, un chimiste de réputation internationale bien connu, présidait l'Académie des sciences, nous nous sommes rapprochés et l'Académie des sciences et l'Académie de médecine ont publié un communiqué commun indiquant qu'il n'y avait aucun risque pour la population. Et ça n'est qu'une semaine après que les médias ont bien voulu consentir à indiquer qu'en effet, il fallait consommer des centaines de kilos de poulet qu'apparaissent dans ces conditions les premiers symptômes d'une intoxication par la dioxine. L'exemple de la vache folle est un peu différent. Dans un premier temps, pas de problème, plutôt problème de psychose, bien entendu. Mais la recherche ne s'est pas développée, malgré plusieurs initiatives. Il a fallu pour cela que le ministre britannique de la Santé, à la tribune du Parlement britannique, indique que peut-être il y aurait une relation entre l'encéphalopathie spongiforme bovine, maladie de la vache folle, avec un certain nombre de formes de maladies de Creutzfeldt-Jakob. Et là, l'inquiétude s'est amplifiée, mais il a eu en revanche de bons résultats, puisque à partir de ce moment-là, les recherches se sont développées dans différents pays. Donc vous voyez le rôle de la communication qui peut être à la fois maléfique et quelquefois bénéfique. Deuxième observation, l'origine de nos crises sanitaires de ces dernières années. Vache folle, listériose, dioxine, SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, cette maladie très sérieuse venant de Chine, et puis la grippe. Je ne parle même pas du sida, puisque le sida à l'époque n'était pas considéré comme une maladie provenant de l'animal. On sait maintenant que le virus du sida nous provient du singe. Toutes ces maladies, toutes ces crises sanitaires sont d'origine animale. Alors, quelles conséquences, troisième observation, quelles conséquences en tirer? L'Académie de médecine a déjà alerté les pouvoirs publics à plusieurs reprises sur l'opportunité qu'il y aurait, pour éviter ces crises sanitaires, à rapprocher les éléments de connaissance qui ressortent de la médecine animale de ceux qui ressortent de la médecine humaine. Nous avons publié à cet égard plusieurs communiqués. Mais il se trouve que la France, comme d'autres pays du reste, mais la France peut-être encore mieux que d'autres pays, si j'ose dire, cultive cette sorte d'étanchéité administrative sur laquelle, vis-à-vis de laquelle il est très extrêmement difficile de lutter. Tout est étanche. L'animal, c'est l'animal. Il est régi par le ministère de l'Agriculture, avec les écoles vétérinaires, l'INRA. L'homme, c'est l'homme, c'est le ministère de la Santé, avec l'INSERM, etc. Il n'y a pas de conjugaison institutionnelle de prévue entre ces deux domaines. Et c'est tout à fait dommage. C'est pourquoi que l'Académie de médecine a appelé l'attention des pouvoirs publics sur l'opportunité qu'il y aurait à se pencher sur trois points particuliers. La veille sanitaire, l'enseignement et la recherche. Veille sanitaire. Nous sommes en 99. Les agences sanitaires viennent de se créer en France l'année précédente. Et je me souviens qu'au Comité national d'évaluation de la recherche, le CNER, nous avons auditionné les dirigeants de ces grandes agences. Et notre surprise a été constatée que dans l'organigramme de l'Institut de veille sanitaire, qui est là pour alerter l'opinion publique de l'apparition des nouvelles maladies, il n'y avait pas de département d'épidémiologie animale. Chose curieuse. Il y a 3 ans ou 2 ans maintenant, mais le temps passe si vite, création de l'école des hautes études de santé publique. Annonce devant l'Académie de médecine. Il n'est pas fait allusion...
Réaction très vive de Charles Pillet.
Il n'est pas fait allusion à ces crises sanitaires que je viens de citer. Il n'est pas fait allusion de leur origine animale. Dieu merci, depuis, les choses se sont arrangées. Il se crée des réseaux, qui ne sont pas institutionnels, mais qui sont efficaces. C'est le cas pour le West Nile, c'est le cas pour la grippe, c'est le cas pour la listériose. Mais tout de même, il y a là de progrès à faire tout à fait importants. Deuxième point, l'enseignement. Autrefois, il existait à la faculté de médecine de Paris, avant la création des 12 facultés, un enseignement sur les zoonoses. On enseignait aux jeunes médecins les éléments essentiels des 180 maladies environ, 180 maladies animales transmissibles à l'homme. Cet enseignement a disparu, non seulement à Paris, mais également en province. Alors, je pense que nous devrions là faire un effort particulier. Il y a 2 ans, nous avons fait une réforme des études préparatoires aux études vétérinaires. Le fait qu'il y ait des enseignements de base qui sont communs aux deux médecines, physiologie, biochimie, bactériologie, immunologie, génétique, etc., aurait fait pencher plutôt pour un rapprochement avec les préparations aux études médicales. Il n'en a pas été, ainsi on s'est rapproché des études agronomiques. Alors je crois que là aussi nous devons réfléchir. Ça n'est pas nouveau comme, je suis dans les temps, je vais terminer, ça n'est pas nouveau comme initiative. Le médecin anatomiste Vic d'Azyr, au XVIIIe siècle, avait déjà prévu un enseignement commun entre médecine animale et médecine humaine. Nicole Briolot, qui était l'auteur avec moi de ce livre, a trouvé ce passage que je ne vais pas vous lire, mais qui est tout à fait intéressant puisque l'initiative a été reprise ensuite par Talleyrand, qui à l'époque voulait absolument qu'il n'y ait qu'une seule école, école de médecine, école vétérinaire réunies. Heureusement que ça ne s'est pas fait, pour des tas de raisons, mais je reste persuadé néanmoins que les études préparatoires à ces deux types de filières me paraissent devoir être réunies, de même que peut-être, à la fin des études, de chacune de ces études, une spécialité commune, qui serait la spécialité de santé publique, permettrait également d'avancer dans ce domaine. Enfin, la recherche. Je pense qu'il est tout à fait important qu'il y ait un rapprochement, là aussi, de deux filières en matière de recherche. Je reste persuadé que s'il y avait eu ce rapprochement en matière de vaches folles, le budget de la France aurait sans doute économisé beaucoup de milliards. L'espoir, à mon avis, vient de l'Europe. L'Europe a créé, il y a quelques années, déjà des réseaux, ou un réseau, qui est un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies infectieuses, des maladies transmissibles. Et en 2005, c'est pas très vieux, l'Europe vient de créer un centre européen de prévention et de contrôle des maladies, dont le siège est à Stockholm. Ça, c'est un progrès considérable, un peu à l'image des CDC américains. Et je crois que nous devons réfléchir à ça. Je crois que l'Académie de médecine devrait continuer à se préoccuper de ce rapprochement entre nos deux médecines, médecine animale et médecine de l'homme, parce que ni les bactéries, ni les virus, ni les prions, vous le savez, ne connaissent de frontières géographiques. Souvent, pas de barrière d'espèce, et en tout cas, pas de barrière administrative. Merci, Monsieur le Président.
C'était Charles Pillet, il évoquait les origines de la propagation de la grippe aviaire, ses possibilités de mutation et de transmission à l'homme, et la nécessité d'une veille sanitaire et d'une coopération entre vétérinaires et médecins. Le précédait Paul Léofonte pour un retour sur l'histoire de la grippe espagnole qui s'est propagée peu avant les années 20 dans toute l'Europe, provoquant la mort de 30 millions de personnes. Ces deux communications se déroulaient dans le cadre de la Journée du Livre à l'Académie Nationale de Médecine, une journée placée sous le thème des maladies infectieuses. Téléchargez les 2 autres sujets de cette journée du livre. Écoutez Pierre-Jean Rémy de l'Académie française pour une communication consacrée à la tuberculose dans la littérature. Écoutez également la lecture d'extraits de l'ouvrage d'Hervé Guibert à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, le témoignage de l'auteur séropositif dans les années 80. Merci de votre écoute et à très vite pour de prochaines retransmissions.